C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Ici Emmanuel Macron. Voici Transatlant Queer, des nouvelles d'outre-mer avec Christophe Gérard.
Allô Christophe Gérard. Je pense que je t'ai surpris aujourd'hui avec ça.
Je le savais, mais je crois que je pourrais pas être prêt psychologiquement. Ça me fera toujours rire.
Bon, vous savez tout le monde que ça s'appelle l'intelligence artificielle, puis des fois, ça nous sert à faire des petites blagues comme ça. On l'utilise à bon escient. Christophe Gérard, donc, on rejoint en France pour la chronique Transatlant Queer. Bonjour Christophe.
Bonjour Denis Martin, j'espère que tu vas bien. C'est un vrai plaisir d'être de retour avec toi sur l'émission. Donc voilà.
Alors, on commence par la France avec un index LGBTQIA+ pour les prochaines élections municipales 2026. Ça veut dire quoi, ça?
Oui, en fait, c'est un outil qui va faire parler de lui, hein, parce à l'approche des élections municipales qui auront lieu au mois de mars 2026 ici en France. C'est un nouvel instrument qui a été lancé et qui s'appelle l'index de l'engagement LGBTI+.
Et donc, un index qui va mesurer quoi concrètement?
En fait, il est issu d'un partenariat entre des associations et l'Observatoire LGBTI+, de la Fondation Jean Jaurès, qui est un organisme indépendant qui analyse la situation politique ici en France. Et l'objectif est simple, c'est évaluer très précisément comment les principales listes candidates dans les grandes villes françaises vont s'emparer des enjeux d'égalité et d'inclusion. Parce que tu le sais, hein, les droits LGBTQIA+, peinent encore trop souvent à se glisser dans les programmes locaux.
Et c'est important de le rappeler parce que en France, hein, les villes ont des vrais leviers d'action.
Oui, les communes peuvent faire énormément par rapport notamment au soutien aux associations, à l'accompagnement des agents municipaux dans l'accueil des personnes LGBTQIA+, la prévention des violences également, l'aménagement d'espaces publics plus sûrs. C'est ça qui va être évalué à travers cet index. Et ça se passe dans un contexte alarmant, hein, puisque les actes anti-LGBTQIA+, ont augmenté de 5% en 2024, après une progression moyenne de 15% par an entre 2016 et 2023. Donc la volonté politique locale est absolument déterminante.
Maintenant, comment ça va fonctionner concrètement là, sur le terrain?
En fait, cet index va analyser les programmes, les prises de position publiques et la communication numérique des candidats et des candidates. Tout sera complété par un questionnaire thématique très poussé qui portera sur la vision et la reconnaissance des réalités locales des têtes de liste. C'est une étude très sérieuse qui couvrira toutes les grandes villes françaises de Paris à Marseille.
Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière cette méthodologie? Ou qui est derrière, je devrais dire, cette méthodologie?
Oui, c'est un comité d'expertes et d'experts de haut vol, issus de la recherche du journalisme, du monde associatif, des personnes comme Janine Mossu-Laveau, qui est politologue et sociologue, ou encore Flora Voltaire, qui est la co-directrice de l'Observatoire LGBTI+, de la Fondation Jean Jaurès. Ils assurent la rigueur de l'indépendance de la démarche, et les résultats seront publiés en février 2026, juste avant le premier tour des élections.
Donc, on parle d'un outil essentiel pour nous, fait pour vous, les électeurs français, parce que je ne m'inclus pas là-dedans, pour y voir clair, c'est génial. On va maintenant aller de la politique locale à la politique nationale. Un vent d'espoir qui souffle aux Pays-Bas. Parle-nous de ça.
Oui, en fait, c'est une nouvelle, on peut dire, formidable, hein, parce qu'aux Pays-Bas, le parti centriste D66 a remporté les législatives le 29 octobre dernier, et cela ouvre la voie à Rob Rietten, qui est un jeune homme de 38 ans, pour devenir le prochain Premier ministre.
Et un chef de gouvernement ouvertement gay, quand même.
Exactement. Robert Rietten, qui a mené une campagne très axée sur les solutions et l'unité, pourrait devenir le plus jeune Premier ministre du pays et le premier à assumer ouvertement son homosexualité à ce poste. Quelque chose que nous, on connaît ici en France avec Gabriel Attal il y a quelques mois, même s'il n'est pas resté au gouvernement très longtemps finalement. C'est un signal politique très fort en Europe.
C'est aussi, je pense, une victoire du centre face au populisme.
Tout à fait. Hein, le parti de D66 a devancé de peu le parti pour la liberté qu'on appelle PVV. C'est un parti d'extrême droite, hein, qui est dirigé par Geert Wilders. Rietten a d'ailleurs déclaré « Les électeurs ont choisi une politique tournée vers les solutions, pas vers les divisions. C'est un vrai mouvement de recentrage après des années de tensions identitaires et une sorte de lassitude face au discours de rejet aux Pays-Bas. »
Et même si les Pays-Bas sont pionniers, hein, sur les droits, comme le mariage pour tous et... En fait, c'est une image puissante.
Ouais. En fait, c'est une continuité symbolique essentielle hein, dans un pays où, on le sait, les violences LGBT-phobes persistent malgré tout. Voir un homme ouvertement gay à la tête du gouvernement, bah, ça incarne la liberté individuelle au plus haut niveau du pouvoir. Et dans un contexte européen où les droits reculent dans certains États, on peut parler de la Hongrie, de la Pologne également, ou de l'Italie, cette élection rappelle qu'une démocratie peut choisir la modération et l'ouverture, ce qui est important chez nous.
Donc, un souffle d'air frais, ça fait du bien. On va revenir à Paris parce que pour un événement, je pense qu'on peut dire d'une grande importance, la capitale française va accueillir la Global Black Pride 2026.
Avec l'accent, je pense que j'aurais pas le même que toi. Une première historique, hein, oui, une étape majeure pour la visibilité et la lutte contre les discriminations qui frappent les personnes noires LGBTQIA+. Après Atlanta en 2024, Paris prend le relais, hein, puisque l'annonce a été faite officiellement le 17 octobre. Elle accueillera cet événement en 2026. Ça a été fait à la mairie de Paris le 17 octobre, donc.
Donc, quand ça se passe, c'est quand ça va se passer, et c'est quoi le programme?
Ça va se dérouler du 9 au 13 septembre 2026, avec 5 jours de célébration de culture et de militantisme, avec un programme à la fois dense. Sur ces 5 jours, on aura notamment la Global Black Queer Assembly. Tu as vu, l'accent n'est pas le même que le tien, avec un thème Power, Culture, Innovation. On aura également la Black Excellence France Rally et un gala de remise de prix qui s'appelle le Black Excellence Award Gala pour célébrer des talents.
Bon, maintenant, c'est une immense fierté, un fort engagement associatif là, qui est derrière tout ça.
Tout à fait. Ricky Nathanson, qui est la vice-présidente de l'organisation, a parlé d'un retour aux sources pour le mouvement et une façon de réécrire l'histoire en Europe francophone. Le message est clair, a affirmé que la joie noire, queer et révolutionnaire, et on le sait, ça a été annoncé, des associations françaises majeures comme Arc Essentiel et Stop Homophobie se sont déclarées partenaires de l'événement, insistant sur le fait qu'être visible, bah, c'est aussi être protégé. Donc c'est une dynamique mondiale de reconnaissance des luttes intersectionnelles.
Bon, c'est un événement qu'on va suivre de très près. Et pour finir, le Conseil de l'Europe fait une avancée pour les droits des personnes intersexes.
Tout à fait, une excellente nouvelle qui concerne les droits humains au niveau européen, puisque le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté à l'unanimité le 7 octobre 2025 une recommandation historique pour protéger les droits des personnes intersexes.
Et c'est un premier cadre officiel, c'est ça?
Tout à fait, c'est le premier cadre officiel européen sur la question. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour le Canada et le Québec en ce qui concerne les questions des personnes intersexes. Ici, en Europe, c'est très, très peu médiatisé, en tout cas, on en parle très peu. Et donc, cette recommandation, elle établit des normes claires pour les États membres pour combler en fait les lacunes légales. Elle aborde notamment un thème qui pour moi est essentiel, à savoir l'interdiction des interventions médicales non consenties, visant notamment à normaliser les caractéristiques sexuelles des enfants intersexes.
Pour qu'on comprenne bien, Christophe, je pense que je vais te demander d'expliciter ça, c'est que quand un enfant vient au monde et qu'on n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait clair quel est le sexe, hein, quel est le sexe assigné à la naissance, on choisit pour cet enfant-là.
Tout à fait, c'est le corps médical qui va faire ce choix, en parlant bien sûr aux parents, hein, mais qui va déterminer, hein, le genre attribué à la naissance, avant même de savoir comment se situe l'enfant dans son parcours par rapport à son genre, ce qui pose des graves problèmes par la suite. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le choix du genre chez les mineurs, c'est quelque chose qu'on remet en question de façon assez globale pour les personnes transgenres, alors que là, on choisit clairement à la place des personnes.
Ouais, c'est assez inquiétant parce qu'effectivement, de plus en plus, on remet en question les décisions parfois que prennent les jeunes personnes trans. Et là, on leur dit non, 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 tu peux pas déterminer ça avant ton adolescence, mais on choisit pour élu lorsque ces personnes-là sont intersexes, quand même.
Tout à fait.
Alors là, ça, c'est vraiment le point critique pour beaucoup d'activistes, hein?
Tout à fait, en fait. Et cette recommandation, elle est aussi accès à la justice, aux soins de santé, à la protection contre la discrimination et les discours de haine. C'est une avancée majeure pour la reconnaissance de la dignité des droits humains des personnes intersexes en Europe. Le texte a été officiellement lancé fin octobre à Strasbourg. Et au travers de toute cette actualité, j'ai essayé de trouver une actualité plutôt feel-good. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un patchwork d'avancées, de rappel que le militantisme est toujours vital, on le sait, hein, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et que c'est en allant aux urnes, en étant visible et en portant les droits de tous, qu'on fait bouger les lignes.
On a un petit peu de temps encore. Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller dans les prochains mois, la fin de la prochaine année en Europe?
Hop. Plein de choses. Je t'entendais parler hein, tout à l'heure de ce qui se passe, hein, de l'inauguration du mémorial en Angleterre. Il y a des avancées aussi importantes au niveau religieux, puisque en Irlande et en Norvège, les autorités religieuses se sont excusées pour le traitement des personnes de la communauté LGBTQIA+. Donc, c'est des choses qui bougent. On a des élections, hein, on le sait. Et
Tout le temps. Il y a
des,
toujours des élections en
voilà.
France, non?
En France et en Europe, et il y a beaucoup de choses à surveiller, notamment il y a un revers aussi, parce qu'il y a pas mal de pays qui étaient proches de Poutine, qui finalement ont pris des décisions au niveau des élections pour se rapprocher plus du pôle européen que Poutine et de par Poutine, de Trump également.
Ouais.
Donc il y a des choses qui sont quand même plutôt positives.
Oui, parce que le Vladimir Poutine et la Russie, c'est quand même un pays qui est assez virulent vis-à-vis des communautés queer.
Tout à fait, et qui a tendance à faire un peu d'ingérence régulièrement dans les élections qui ont lieu chez nous en Europe.
Ah, et même ici, en Amérique du Nord et au Canada. Rapidement, Christophe, est-ce qu'il y a un petit feel-good, une petite nouvelle culturelle qui te fait vibrer ces jours-ci?
Ouais, j'ai appris. Alors, ça va être présenté le 22 novembre. Il y a un film, j'ai pas eu le titre en tête, sur un personnage important de la communauté queer en Europe. C'est Jimmy Somerville, qui est une personnalité pop qui a fait beaucoup pour la musique, mais qui est très engagée aussi pour la communauté queer. Il y a un documentaire qui est présenté dans le cadre du festival Chéri Chéri, ici à Paris.
Wow, ben on a hâte de voir ça. Ça va certainement venir ici au Canada aussi. Christophe Gérard, donc on a rejoint en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est un vrai plaisir. À bientôt, Denis
À
Martin.
très bientôt.